Bonjour à toutes et à tous, 9e numéro de Mémoire Aveyronnaise sur CFM Rodez, une émission présentée, préparée par Vincent Besombe. Salut Vincent.
Salut, bonjour à tous.
Vincent, on le rappelle, président du comité Rodez du souvenir français. Hein.
Toujours fidèle au poste.
Eh ben, j'espère bien Vincent, j'espère bien. Vincent, 9e numéro de Mémoire Aveyronnaise avec toi. Et au programme, tu nous l'as annoncé il y a 15 jours,
oui.
Monseigneur Affre.
Oui,
et là, je t'avoue que tu vas tout m'apprendre de A à Z parce que je ne connais pas ce monsieur.
Et pourtant, tu passes devant régulièrement.
Je passe devant...
Enfin, pas devant lui, mais au moins devant sa statue.
Dans Rodez,
et oui, c'est lui, on a tendance à l'oublier parce que les choses qu'on voit trop, on ne les voit plus. Mmh. C'est la belle statue en bronze, la grande statue qui se trouve Place de la Cité.
Ah bah ouais, d'accord. Donc, t'as raison.
Je passe voilà.
Devant. J'ai honte, mais j'avais pas fait gaffe. C'est Monseigneur Affre.
Oui, tout à fait. Alors, je tiens à souhaiter d'ailleurs, en profiter aujourd'hui pour souhaiter une bonne année 2022 à tous les auditeurs. À toi aussi, bien sûr, je t'oublie pas. C'est pour ça que, alors c'est triste, c'est comme un film, je suis désolé, je vais dire la fin avant de commencer, il meurt à la fin.
Ah bah oui, mais ça, c'est comme tout le monde, on meurt à la fin.
Hein. C'est comme disait Woody Allen, la vie est une maladie mortelle, sexuellement transmissible.
Oui.
Mais voilà, il finit mal à la fin. Mais voilà, je voulais en parler en ce début d'année parce que Monseigneur Affre est quand même un symbole de paix. Il est mort pour la paix. Voilà, ça m'a paru en cette période un petit peu de nouvelle année de parler de de paix.
Alors Monseigneur Affre, son titre l'indique, c'est un religieux. Première chose et deuxième chose, Monseigneur Affre, c'était quand?
Alors, Monseigneur Affre, je vais vous donner un petit peu ses dates. Alors, Monseigneur, pourquoi? Parce qu'il a été archevêque de Paris.
Ah ouais, quand même.
Mais bon, toujours des racines aveyronnaises, bien entendu. C'est ce qui nous concerne dans Mémoire Aveyronnaise. Mmh. En fait, Denis-Auguste Affre est né le 27 septembre 1793, donc en pleine Révolution française, à Saint-Rome-de-Tarn.
D'accord.
Voilà, donc pas très loin de Sainte-Afrique. Mmh. En 1807, à l'âge de 14 ans, il rentre au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Alors, il rentre très jeune, c'est le grand séminaire, c'est pas le petit séminaire. Il rentre aussi jeune, pourquoi? Parce que, en fait, un de ses oncles maternels est le directeur de ce séminaire Saint-Sulpice à Paris.
Un piston, quoi.
On peut appeler ça comme ça. Oui, mais c'était, on va le voir, c'était quelqu'un de profondément croyant. Moi je dis toujours, le piston, pourquoi pas, tant qu'on pistonne des gens compétents. Voilà, faut arrêter un petit peu les pistons.
T'as raison.
Moi j'en ai assez souffert, faut arrêter les pistons de copains totalement incompétents qu'il faut caser. Mais voilà, s'il y a du compétent, pourquoi pas, oui, il y a aucun souci de ce côté-là. En 1818...
Excuse-moi, oui. Vincent. Donc, né à Saint-Rome, dans le sud du département de l'Aveyron, Monseigneur Affre. Et alors, comment à 14 ans, il se retrouve à Paris? Parce que même à l'époque, il fallait une bonne raison de monter à Paris. Il est monté pour le séminaire?
Il est monté, oui, pour le séminaire.
Ah, d'accord.
Oui, okay. Apparemment, c'était un jeune vraiment...
Motivé.
Très croyant, très pieux, très motivé.
Ah, okay.
Et donc, son oncle lui a proposé tout simplement de le prendre en charge et de le faire monter, comme on dit, à la capitale. Mmh. C'est ce qui, d'ailleurs, a propulsé sa carrière. En 1807, sous le Premier Empire, un Aveyronnais montait pas à Paris comme ça.
Il n'y a pas grand monde qui montait à Paris
comme
ça.
Non, c'est sûr. Déjà, je pense que Saint-Rome-de-Tarn, Rodez, à l'époque, ça devait être un sacré voyage.
Ouais.
Donc, Saint-Rome-de-Tarn, Paris, c'est sûr que... voilà. Alors, à 25 ans, donc il fait ses études vraiment rapidement, à 25 ans, en 1818, il est ordonné prêtre. Alors j'ai pas trouvé où, je pense qu'il doit être ordonné prêtre à Paris, je me doute. Il n'est pas curé de paroisse, il est envoyé au séminaire de Nantes, ce qui prouve qu'il est quand même très instruit et qu'il a un très bon niveau.
Alors attends,
il va au séminaire de Nantes comme professeur.
Ouais, mais Nantes lequel? Le nôtre ou l'Atlantique?
Nantes. Alors en Aveyron, on prononce toutes les lettres, mais là, pour une fois, on prononce Nantes. Tu vois, il y a la subtilité.
Okay.
On prononce pas le E. Okay. Quand on prononce Nantes, teux, c'est Nantes en Bretagne. Voilà.
Merci Vincent.
Ouais. La subtilité de la langue, qu'est-ce que tu veux. Donc ça montre un petit peu son niveau, puisque sa première charge, en fait, il n'est pas curé de campagne, mais il devient professeur de philosophie au séminaire de Nantes. Ce qui n'est pas rien, surtout à 25 ans. Mmh. Ensuite, entre 1823 et 1833, il devient vicaire général, alors successivement des diocèses de Luçon, donc ça c'est en Vendée, et du diocèse d'Amiens dans la Somme. Alors vicaire général, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le bras droit de l'évêque.
D'accord.
Voilà, dans un diocèse. Donc je dirais tout simplement, c'est le numéro 2 dans un diocèse. En 1839, il est nommé vicaire capitulaire de Paris. Alors, là aussi un nom compliqué.
Ouais, capitulaire.
C'est presque comme un vicaire général, c'est même plus haut. En fait, quand le siège de l'évêque est vacant, en attendant de trouver un évêque, ou à l'occurrence à Paris, un archevêque, il faut quelqu'un pour le remplacer. Et là, c'est un vicaire capitulaire. Alors nous, on connaît ça actuellement à Rodez, avec le départ de Mgr von Lupp. Le siège est vacant, ouais. La cathèdre, donc, c'est-à-dire le trône épiscopal est vacant. Alors, le nom a un petit peu changé. Il n'est pas vicaire capitulaire, parce que capitulaire, il faudrait qu'il y ait un chapitre de prêtres. On n'a plus de chapitre de prêtres, hélas, à Rodez depuis longtemps, à la cathédrale. Nous, ce que nous avons, c'est un administrateur diocésain. C'est l'ancien vicaire général, le père Daniel Bobby, qui est actuellement administrateur diocésain. Donc c'est quand même un rôle très important. C'est lui qui fait office de, enfin qui fait vraiment office de remplaçant de l'archevêque. Et à la mort de l'archevêque de Paris, le 6 août 1840, il est nommé archevêque de Paris.
Consécration.
Très grande consécration.
De Paris, bon.
Ah ben c'est pas rien, c'est vraiment...
C'est un des plus hauts postes, à part peut-être à Lyon.
Un des plus hauts postes, oui. Alors Lyon, c'est toujours... Lyon, l'archevêque de Lyon a le titre de primat des Gaules, parce que Lyon a toujours été la capitale des Gaules sous l'Antiquité, donc t'as bien raison, c'est un titre vraiment à part. Je dirais que Lyon est même historiquement plus important, bien sûr, que Paris, malgré que Paris soit la capitale politique et administrative de la France. Alors, il fait de grandes choses, Mgr Affre, à son siège épiscopal. On l'a vu, il était professeur de philosophie. Alors, il va promouvoir un petit peu les études des religieux. Il va apporter des améliorations, il va apporter plein de choses. On lui doit la création de l'école des Carmes. C'est une école qui est très importante et qui existe toujours à Paris. Couramment, on l'appelle la Cato de Paris. Donc, c'est l'université catholique de Paris, donc voilà, très 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 important et qui existe encore. Alors qui est une université qui où il n'y a pas que des prêtres, il y a aussi des laïcs qui sont formés là-bas. Et également, il crée l'école de théologie de la Sorbonne. Alors, il crée pas la Sorbonne. La Sorbonne existe depuis le XIIIe siècle. Mais il crée au sein de la Sorbonne une école de théologie. C'est un homme bon, qui est relativement proche du peuple. Il va créer de nombreuses paroisses ouvrières pour essayer de ramener un petit peu à la spiritualité, à la religion, les travailleurs, les gens humbles, les gens pauvres, même aussi les gens sans travail.
Ouais, parce que là, 1840 et quelques années, on est au début de l'ère industrielle, comme on dit. Donc il y a des usines qui se montent.
Il y a des usines, il y a tous les problèmes qu'on connaît de grève, il y a des heures et des heures et des heures de très très dur labeur.
Ah oui, c'était plus que 35 heures.
Ah oui, oui, oui. Là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, comme tu dis, la révolution industrielle. Donc il va créer tout autour de Paris des paroisses ouvrières. Il va être aimé du peuple, vraiment. Et il va être proche du peuple, tellement proche que il va mourir pour lui, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Lors des événements de juin 1848. Oui. Alors, avant ces événements de juin 1848, vous savez, chers auditeurs, que j'aime bien planter un petit peu le décor, remonter un petit peu en avant. Alors, en France, nous avons trois révolutions. nous n'avons pas une révolution, on a tendance à parler de la révolution française, la grande révolution de 1789, mais on a deux autres révolutions, beaucoup plus petites. La révolution de 1830, où le peuple renverse de son trône le roi Charles X,
oui.
Et également la révolution de février 1848, qui est très courte, qui va du 22 au 25 février 1848, où le peuple de Paris fait une révolution et renverse de son trône le dernier roi de France, plutôt le roi des lui était roi des Français, roi républicain, le roi Louis-Philippe. Mmh. Voilà. C'est l'instauration de la Deuxième République. Il n'y a pas vraiment eu de Première République, mais disons que la Révolution française, voilà, on a tendance à dire que ça a été la Première République.
Le début de la République, ouais.
Oui, c'est ça. Mais là, c'est vraiment la Seconde République. Alors, c'est vraiment compliqué au niveau économique. Il y a une très, très, très grosse crise économique à ce moment-là, qui couve déjà depuis quelques années. Hein. Donc, il y a des milliers de chômeurs dans la rue. Et l'État va créer ce qu'on appelle les ateliers nationaux pour justement payer des gens. Alors c'est presque l'ancêtre, je dirais, de la NPE, sauf que l'État donne vraiment du travail aux chômeurs. Mmh. Il emploie donc des milliers de chômeurs. Les ateliers nationaux, c'est surtout pour la construction, la construction de routes, la construction de bâtiments publics, etc., etc. Sauf que beaucoup de gens critiquent et beaucoup de gens trouvent que ces ateliers nationaux coûtent énormément d'argent à l'État, ce qui, d'après les historiens, est pas vrai. Mais bon, l'opinion publique, surtout les gens qui ont certains pouvoirs et qui veulent plus payer. Le 21 juin 1848, l'État décide de fermer ces ateliers nationaux.
D'accord, pour répondre à la pression.
Pour répondre à la pression des grands financiers. Mmh. Donc tous ces milliers de chômeurs qui avaient du travail, qui avaient de quoi se nourrir, se sont retrouvés à la rue. Donc le 21 juin 1848. Le lendemain, le 22 juin, des milliers de Parisiens se sont soulevés, sont descendus dans la rue et ont monté des barricades partout dans Paris, ont pris des armes pour justement se mutiner contre le gouvernement, pour retrouver du travail et protester contre la fermeture de ces ateliers nationaux. Ça te rappelle rien?
Ça fait
un peu penser à la crise des gilets jaunes.
Bah ouais,
tout ça. Ouais. C'est un peu le même principe.
Ouais, c'est marrant.
Alors, à l'époque, on l'a déjà dit dans une émission précédente, à l'époque, ça se passait pas à coups de matraque ou à coups de gaz lacrymogène.
Ouais.
Des milliers de soldats et de gardes nationaux ont été appelés à Paris en armes. À l'époque, les manifestants ont tiré dessus. Hein. Ça se passait à la balle, au sabre ou à la baïonnette. Hein. Donc c'était vraiment compliqué. Bon, faut dire que de l'autre côté aussi, c'était quand même musclé des deux côtés. Ne jetons la pierre à personne. Alors vraiment, c'est très très sanglant à Paris. Les émeutes sont vraiment très violentes. Et alors nous retrouvons Monseigneur Affre le 25 juin, donc toujours 1848. Monseigneur Affre, je vous l'ai dit, il est vraiment très proche du peuple, très proche des ouvriers, mais aussi très proche de l'État. Lui, il prend parti pour personne. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la paix. Et il trouve que sa présence est obligatoire et nécessaire sur les barricades. Pas pour jeter des pavés ou faire quoi que ce soit, mais voilà, pour essayer d'apaiser tout le monde, d'essayer de s'interposer vraiment de manière paisible, et essayer pourquoi pas d'intervenir pour faire déposer les armes. Il va se rendre pour cela à la barricade du Faubourg Saint-Antoine.
D'accord,
il monte sur la barricade,
de Paris.
Donc en plein centre de Paris. Si je me trompe pas, je crois que c'est
C'est vers Bastille.
Au bord de la place de la Bastille.
Ouais.
Donc un lieu chargé d'histoire depuis
déjà
1789.
Ouais. Tout à fait.
Déjà, et puis faut pas oublier même actuellement les grandes manifestations
à Paris
là-bas.
Ouais.
Sont là-bas, partent de là-bas ou arrivent là-bas. Ouais. Donc un lieu de contestation toujours à l'heure actuelle.
Et le quartier Faubourg Saint-Antoine, quartier aussi d'artisans.
Tout à fait.
Pendant cette époque-là, artisans, notamment beaucoup de travailleurs,
des ateliers populaires. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il monte sur les barricades. Quand les gens le voient, tout s'apaise. Les tirs qui étaient assez violents s'arrêtent. Il commence à parler et, malheur, un coup de feu est parti. Personne n'a jamais su d'où ce coup de feu était parti. Est-ce que ce coup de feu est parti de l'armée ou de la garde nationale,
ouais,
ou des contestataires? Personne n'a jamais su.
Ah alors, non, mais attends, si, à mon avis, il y a quelqu'un qui
sait. Ah, mais oui, il y a au moins une personne qui sait.
Voilà. Non, mais selon la position, quand on est sur une. Si c'est dans le dos, si c'est dans le ventre, tu peux savoir d'où ça vient.
Oui, mais à l'époque, les experts Manhattan ou les experts, je ne sais plus d'où, aux États-Unis. Voilà,
donc, il y a eu une enquête ou même pas?
Alors.
C'était quand même l'archevêque de Paris, quoi.
Je ne sais pas si à l'époque, il y a eu une enquête, mais. Beaucoup d'historiens se sont penchés sur le sujet,
oui.
Et en fait, ce qui ressort, alors vrai, pas vrai, on ne sait pas, même encore, c'est l'énigme, mais ce qui ressort un petit peu des enquêtes des différents historiens, il s'agirait éventuellement d'un tir accidentel.
Ah, voilà. Une balle perdue.
Ce qui arrive.
Oui, encore récemment au cinéma, on l'a vu ça.
C'est, mais
sur un plateau de cinéma.
Tout à fait. Alors là, le drame est Monseigneur Affre, donc qui tombe blessé. Il n'est pas mort sur le coup. Il est conduit tout près au presbytère Saint-Antoine pour avoir les premiers secours. Et le lendemain, le 26 juin, il est conduit dans sa résidence de l'île Saint-Louis, la résidence des archevêques de Paris, où malheureusement il meurt de ses blessures le 27 juin à 4h30 du matin.
D'accord, à l'âge donc de 53 ans, quelque chose comme ça.
Oh, j'ai pas calculé, je sais que t'es très très bon en calcul.
55 ans peut-être.
Voilà, je te laisse la responsabilité de l'âge.
Monseigneur Affre, donc né en Aveyron,
oui.
Au sud du département. Du coup, il est inhumé à Paris en tant qu'archevêque, on lui fait une place dans la cathédrale.
Bien sûr, il redescend
en Aveyron pour un enterrement plus simple.
Non, il reste à Paris. Alors d'abord... À chaque grand homme, une grande phrase.
Ah, j'ai cru que t'allais dire une grande femme, mais là, pour l'archevêque,
une grande
pas.
Phrase.
Ah oui, d'accord.
Et oui, pour un archevêque, c'est un peu compliqué.
Oui, ça va pas. Oui.
Donc, on lui doit. On l'a vu. Il est blessé mortellement, mais il meurt pas tout de suite.
Il va avoir un dernier mot.
Il va avoir un dernier mot.
Vas-y, vas-y.
Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Que mon sang soit le dernier versé. Et d'ailleurs. Chers Ruthénois, je vous invite à Véronée de passage. Je vous invite à aller place de la Cité, voir cette belle statue de Monseigneur Affre, et faites le tour. Vous verrez sur son socle, vous avez cette devise qui est inscrite.
Ah bah je vais les regarder parce que moi je passe devant. Ouais, t'as raison, quasiment tous les jours.
Pas tout de suite, hein,
on finit. Et cette statue, justement, place de la Cité, elle a été faite pas au lendemain de sa mort, quand même. J'imagine elle est plus récente, non? Je sais pas.
Ouh là là, non, très rapidement.
Ah bon?
Très rapidement. Alors, cette statue, elle est datée, elle est signée, elle est datée.
Ouais.
On la doit au sculpteur Jean-Auguste Barre. Il l'a sculptée en 1858.
Ah oui, donc quelques années après la mort.
Dix ans. Ouais. 10 ans après. Tu vois, pour une fois, c'est moi qui ai la date.
Très bien.
10 ans après. Et en fait, elle a été commandée par la famille de Monseigneur Affre,
okay.
Qui en a commandé deux. Exactement pareil.
Une pour la maison.
Des sœurs jumelles. Une est placée en 1873, donc offerte à la municipalité de Rodez, et placée en 1873 place de la Cité.
D'accord, donc à l'emplacement actuel.
À l'emplacement actuel.
Okay.
Et l'autre a été offerte à sa ville natale, à son village natal, Saint-Rome-de-Tarn. Voilà. Où elle est toujours sur la place du Terral.
D'accord.
Alors, il existe une troisième statue.
Ouais. La même?
Toujours le même principe. Alors c'est un martyr de la paix, en martyrologie de la chrétienté, le symbole des martyrs, c'est la palme. Alors quand on voit la statue, les statues jumelles de Rhodes et de Saint-Rome de Tarn. D'une main, il tient la feuille de la palme de laurier de martyr, et de l'autre main, il la lève. Alors on dirait, placée comme elle est, qu'il la lève, c'est très beau, vers la cathédrale de Rhodes. Mais en fait, voilà, il la lève vers la foule, en symbole d'apaisement et un symbole de paix. Alors, ce qui est amusant, c'est que en 1848, il y a une ville coloniale qui est en train de se créer en Algérie. C'est un ancien village qui s'appelait Oued Rehan, qui va prendre le nom de Affreville.
Ah ouais, d'accord.
C'est assez...
Pour rendre hommage.
Pour rendre hommage, la même année. Donc il meurt, on l'a vu, en juin 48. Là, cette ville prend le nom en 1848. Alors, il y a quand même un lien avec l'Algérie. Je vais faire un petit rappel sur ces événements, ces manifestations violentes là de juin 48. En fait, il y a parmi les révoltés, il va y avoir à peu près 4000 morts, on estime, et 4000 prisonniers. Et ces 4000 prisonniers vont être envoyés pour repeupler l'Algérie. Voilà, les colonies d'Algérie. Okay. Voilà. Donc c'est un petit lien avec l'Algérie. Alors une statue de Monseigneur Affre va être inaugurée en 1948.
Oui.
Donc ça c'est assez récent. Pour les 100 ans de sa mort dans cette ville d'Affreville. 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie. Cette ville reprend son nom algérien. Ouais. Et la statue, comme la plupart des statues en Algérie, a été démontée et a été ramenée en France.
A été ramenée en France, quand même.
Elle a été ramenée en France, enfin amenée, parce qu'elle amenée.
Oui.
Et on peut la voir à Saint-Rome de Tarn, juste à côté de la maison de retraite Monseigneur Affre.
D'accord, voilà. Donc deux statues de Monseigneur Affre dans la ville qu'il a vue naître.
Tout à fait.
Et la maison de retraite de la commune qui porte le nom de Monseigneur Affre.
Tout à fait. Alors, Denis Affre, il y a beaucoup de rues aussi à Paris, à Rhodes, il y a Nantes. J'ai fait le tour un petit peu, alors je ne les citerai pas toutes, Sainte-Afrique, mais en France, il y a beaucoup, beaucoup de rues Denis Affre. Voilà.
Bah oui, parce que Aveyron est Monseigneur Affre, mais archevêque de Paris déjà, c'est archevêque une chose. De Paris. Et puis mort dans les circonstances que tu nous as dites, où effectivement ça a dû un petit peu marquer
tout à fait.
Populations.
Alors, je fais une petite parenthèse historique. En 1871, une autre révolte, c'est la révolte de la commune.
Oui.
Notamment ce qu'on appelle la semaine sanglante. Il y aura, hélas, un deuxième archevêque de Paris qui va mourir. Oui. Alors cette fois, ça sera pas une balle perdue. Cette fois, il sera fusillé comme otage avec d'autres religieux et des politiques.
Par les communards ?
Par les communards, tout à fait. Le 24 mai 1871, il sera donc fusillé à Paris.
D'accord. C'est un Aveyronnais ?
Non.
Ah, bon, donc on n'en parlera pas dans 15 jours.
On n'en parlera pas dans 15 jours. Bon. Non, tout à fait.
Très bien, merci beaucoup Vincent.
De rien,
Vincent
avec plaisir.
Pour cette belle émission, encore une fois, consacrée à Monseigneur Affre. Alors dans 15 jours, on parlera de quoi du coup, tu sais ?
Alors oui, dans 15 jours, on reparlera à nouveau du 122e régiment d'infanterie.
Oui, de Rhodes.
De Rhodes. Oui. On parlera de la mutinerie qui a eu lieu en 1913 à Rhodes.
Ouais.
Petite mutinerie, mais qui va avoir un retentissement national.
Ah, voilà,
on va en parler dans tous les journaux.
Eh ben écoute, super, vivement la prochaine émission. Rendez-vous avec toi dans 15 jours. Merci Vincent.
Merci, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.